Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
Le pape François a admis lors de la messe que les femmes servent à l'autel et qu'elles puissent faire les lectures lors de cette célébration. Un grand pas dans l'Église catholique qui peut cependant renforcer l'idée que l'opinion publique se fait de la place des femmes dans le christianisme, une religion vue comme rétrograde par beaucoup, porteuse d'une vision archaïque de la femme. Et pourtant, à y regarder de plus près, les femmes non seulement sont partout dans les Écritures, mais ont une place capitale. Et ce, même quand leur comportement n'est pas exemplaire, preuve en est avec l'émission de ce matin. Les femmes dans la Bible, deuxième, c'est donc le thème de l'émission Vivante Église de ce matin, avec comme invité en duplex depuis les studios de RCF Pays Tarnay à Albi, Gaël Rocoul. Vous êtes prêtre de ce diocèse et donc vous êtes un des intervenants de ce cycle qui est donné, cycle de conférences bibliques par la faculté de théologie de l'Institut catholique de Toulouse. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir fait le déplacement. Donc les femmes dans la Bible, deuxième, pour ceux qui n'auraient pas suivi, vous avez le père Cyprien Comte qui coordonne ce cycle de conférences, était invité dans la matinale il y a quelques temps. C'est donc un cycle de conférences bibliques sur l'année qui court, organisé donc par la faculté de théologie de l'Institut catholique de Toulouse, qui tient bon malgré les circonstances. Les femmes dans la Bible, ça peut surprendre encore certains. Et ce matin, avec vous, on va donc parcourir un passage de l'Évangile. C'est de l'Évangile selon Saint Luc, et c'est l'histoire d'une femme et d'une pécheresse qui a une place importante. On va commencer par faire un peu connaissance avec vous, Gaël Rocoul. Vous êtes prêtre du diocèse d'Albi. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire un peu de plus sur vous?
Voilà, je suis sans doute encore un jeune prêtre puisque j'ai été ordonné en 2014, donc pour le diocèse d'Albi. J'ai fait mes études au séminaire à Toulouse et à l'Institut catholique. Et de 2017 à 2019, j'ai fait une maîtrise en théologie à Bruxelles, à l'Institut d'études théologiques, institut qui a fermé ses portes depuis, hélas, mais qui m'a permis de me former en théologie, et plus particulièrement en théologie biblique. Et c'est à la suite de ça que le père Cyprien Comte m'a invité à intégrer ce cycle de conférences bibliques pour cette année. J'ai répondu très volontiers. Alors, par ailleurs, donc, je suis vicaire sur la paroisse de la cathédrale Sainte-Cécile à Albi, et puis aussi au niveau du diocèse, responsable du service des vocations et du service auprès des servants d'hôtel.
Alors, je vous demande comme ça de faire l'article, parce que ce matin, vous allez être à mi-chemin de l'enseignant et du pasteur. Vous allez nous aider, et c'était un peu le sens de cette émission. Alors, certes, on a conclu un partenariat avec cette série de conférences bibliques à l'occasion donc d'émissions du lundi, on aura 8 en tout, mais l'idée à chaque fois, comme on l'avait fait lors de la précédente émission avec Sandrine Canéry, c'est de nous aider à nous plonger dans les Écritures. Alors là, c'était un passage de l'Évangile selon Saint Luc. La pécheresse pardonnée et aimante, peut-être faut-il commencer par resituer ce passage dans l'Évangile selon Saint Luc. Vous commencez en tout cas par cela. Vous avez cette expression dans l'Évangile, si je ne me trompe pas, il y a comme un processus dit de véridiction. Qu'est-ce que ça veut dire, ça?
Voilà, alors c'est un processus tout à fait typique de l'Évangile selon Saint Luc. Saint Luc, en fait, écrit son récit à un certain Théophile, en lui disant qu'il écrit son récit de manière à le confirmer dans tous les éléments, les enseignements qu'il a reçus par ailleurs, pour le confirmer finalement dans ce qu'il croit et dans ce qu'il a déjà reçu. Donc en fait, Luc va organiser son récit de manière à vérifier, de manière à lui montrer que finalement les personnages et les récits vont manifester d'eux-mêmes la qualité de ce message qui est déjà familier à Théophile, mais qu'il va pouvoir approfondir et redécouvrir d'une manière nouvelle peut-être, et peut-être plus structurée aussi.
Et alors, qui est ce Théophile, et peut-on être tous quelque part des Théophiles?
Voilà, alors c'est très beau parce que en fait on ne sait absolument rien de ce Théophile à qui Luc écrit. Son nom indique sans doute que c'est un grec, quoi, mais ce qui est très beau, c'est la signification du nom de Théophile. Théophile, c'est l'ami de Dieu, hein, celui qui est aimé de Dieu. Et au fond, eh bien, tout lecteur de l'Évangile qui se reconnaît ou qui espère ou qui désire être un peu plus aimé de Dieu, eh bien, peut se sentir tout à fait concerné et destinataire, finalement, de ce récit de l'Évangile que Luc écrit.
Ce passage de l'Évangile, c'est donc Luc chapitre 7, du verset 36 au verset 50. C'est donc l'histoire d'un repas. Jésus est invité chez un certain Simon, qui est un pharisien, et en plein milieu du repas, ou presque, une femme se jette aux pieds de Jésus, le couvre de baisers, de ses larmes et de parfums. Et par le truchement de cette femme, en tout cas c'est ce que vous allez nous expliquer, Jésus dévoile qui il est et on va dire fait œuvre de vérité dans pareille situation. Est-ce que vous pouvez, avant qu'on se plonge dedans, nous dire quand arrive ce passage, si vous continuez à être un peu notre professeur, on va dire, d'école primaire des Écritures, puisque nombre d'entre nous ne sommes pas très aguerris. Déjà au chapitre 7, on en est où?
Voilà, effectivement, comme vous le dites, c'est très important de resituer toujours un passage biblique dans son contexte, plus ou moins large, parce que, ben, comme je l'ai dit, l'évangile de Luc est très structuré, donc c'est important de pouvoir le resituer. Alors, pour faire un très bref croquis, j'allais dire, de l'évangile, on a en fait quatre grandes parties dans l'évangile de Luc. Il y a les quatre premiers chapitres qui sont les prémices du ministère de Jésus, avec notamment dans les deux premiers chapitres, ce sont les récits de l'enfance, hein, les annonciations à Marie, à Zacharie, la naissance de Jésus, Noël, que nous avons célébré il y a quelques semaines, la présentation de Jésus au temple, etc. Voilà, toute l'enfance de Jésus, et puis ensuite les prémices de l'évangile, le baptême de Jésus, les tentations au désert, etc. Voilà, donc ça c'est un peu, j'allais dire, le début de la vie de Jésus. Et puis dans une deuxième partie, chapitre 4 à 9, grosso modo, eh bien c'est en fait la mise en place des éléments du récit. Jésus est essentiellement en Galilée, voilà, dans le nord, dans sa région d'origine, et il va commencer à manifester par des signes, par des paroles fortes, eh bien commencer à dessiner son identité. Et là, c'est une question qui parcourt toute cette partie-là, de dire, mais au fond, qui est cet homme? On a l'impression qu'il se montre comme un prophète. Et on va voir que, eh bien justement, c'est de dire, ben, il est plus qu'un prophète. Et cette partie va s'achever par la profession de foi de Pierre, hein, à Césarée, qui va dire, ben oui, tu es le Christ, tu es le Messie, et la transfiguration. Et à partir de là, Jésus va faire route vers Jérusalem. Voilà, il va se mettre en marche vers Jérusalem, où il va vivre bien sûr sa passion et sa mort, et annoncer sa passion et sa mort et sa résurrection. Et voilà, ça va jalonner toute cette troisième grande partie, la montée vers Jérusalem, qui va culminer bien sûr à la fin par la passion et la résurrection. Mais donc, oui.
Allez-y, pardon. Finissez.
Le passage que l'on va travailler, donc enfin que l'on va voir ensemble, donc se situe dans cette deuxième grande partie où l'identité prophétique de Jésus commence à se dessiner et interroge finalement.
Alors interroge en l'occurrence celui qui se pose la question, semble-t-il, c'est un certain Simon. Un pharisien l'invita à manger avec lui. Dont on est donc au verset 36 de ce chapitre 7 de l'Évangile selon Saint Luc. Il entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Alors vous êtes, comment dire, vous voyez ce qu'on ne voit pas forcément. Vous relevez qu'il y a deux mots, il y a invité et puis il y a aussi prié, qui laisse entendre que c'est une invitation un peu particulière à l'égard de Jésus.
Voilà, c'est alors l'évangile de Luc, encore une fois, est très ciselé, très fin, le grec est très riche et donc très précis. En fait, alors déjà, c'est pas la première fois que Jésus mange, et notamment avec des gens peut-être peu fréquentables, quand il avait appelé Lévi, Matthieu, un peu plus tôt dans l'évangile, hein, il était déjà à table, et puis ensuite, il mangera encore avec des pharisiens derrière. Déjà, c'est pour casser peut-être un premier mythe, qui est que Jésus, et les pharisiens, ils s'entendaient pas très bien. Luc nous montre que à trois reprises Jésus va manger chez les pharisiens, avec les pharisiens. Donc il y a un certain respect quand même a priori, une certaine attention quoi. Et chez ce pharisien-là en particulier, qui pour l'instant est anonyme, nous ne le connaissons pas bien, eh bien il y a deux verbes. Un verbe prier. Alors ce verbe prier, il le prie à manger avec lui. On va dire il l'interroge. Il y a même l'idée presque... Il va y avoir un interrogatoire au cours de ce repas. Voilà, il va y avoir quelque chose derrière. Et puis, dans un peu plus tard, au verset 39, on va avoir un autre verbe, le verbe de l'appel, en fait, qu'il avait, on va dire, que le pharisien qui avait appelé Jésus. Comme c'est le même verbe, oui, c'est ça, de la vocation, de l'appel, qu'on va retrouver dans le mot « église », hein, « kaleo » en grec, donc « ecclesia », l'église, hein, cette assemblée d'appeler. Voilà, et donc il va y avoir... À l'interrogatoire, finalement, a priori, cette intention première du pharisien, eh bien, va pouvoir se dessiner finalement un appel et laisser résonner un appel de la part de Jésus.
Alors c'est un repas qui, j'allais dire, qui tourne court, en tout cas qui ne se passe pas comme prévu, comme ce pharisien ou comme ce Simon l'imaginait, patatras j'ai envie de dire, puisque tout de suite après, voici une femme qui dans la ville était pécheresse, ayant appris qu'il était à table dans la maison du pharisien, elle avait apporté un vase de parfum et elle se plaça derrière, en l'occurrence c'est derrière Jésus, à ses pieds, tout en pleurs, etc. Est-ce que vous pouvez nous dire, quand on était invité chez un pharisien, qu'est-ce que c'était déjà un pharisien? Et une femme comme ça qui rentrait au milieu d'un repas qui était parti pour être un interrogatoire, c'était vraiment incongru ?
Complètement. On peut dire, enfin, avec beaucoup d'approximation et sans doute que c'est pas exactement juste, mais on va dire que c'était peut-être un repas un peu mondain, enfin, en tout cas une invitation un peu formelle. Mais les pharisiens étaient des notables parmi les juifs, garants aussi de la loi, de la pratique de la loi, et avec une distinction très très nette et très claire entre les différentes classes sociales, entre les différentes familles de personnes. Voilà, les femmes, les hommes, les juifs, les non-juifs, etc., les esclaves, les hommes libres. Voilà. Donc, ce pharisien invite Jésus à table, et donc, évidemment, c'est un repas exclusivement masculin. Exclusivement masculin. Et surgit dans le récit de Luc, presque de nulle part, voilà, il nous dit « et voici une femme, et en plus, qui était pécheresse, donc on ne nous dit pas de quel péché il s'agit, mais suffisamment grave pour contraster sans doute avec l'état du pharisien qui devait se dire
plus ou moins pur. Et pour que ça soit de notoriété publique en l'occurrence.
Oui, c'est ça, absolument. Hein, parce que dans la ville, elle était une pécheresse, nous dit le narrateur. Donc il y a une reconnaissance publique de cet état, j'allais dire, de pécheresse de cette femme. Mais elle surgit, voilà, presque de nulle part. Alors que, voilà, on nous montre Jésus qui entre, qui prend place à table, qui s'installe. Voilà, cette femme qui surgit. Et elle met en place, cette femme, deux éléments qui vont être capitaux pour la suite du récit. La question du parfum, vous l'avez souligné, qui va être très importante par la suite. Et puis, la question des pieds de Jésus, parce qu'elle se met à prendre soin, j'allais dire, des pieds de Jésus. Hein, le repas se prenait à la romaine.
Hein, allongé.
Voilà, allongé, hein, à la romaine, donc la tête vers le centre et les pieds à l'arrière.
Alors je vais juste finir de lire le passage. « Et se plaçant par derrière à ses pieds, tout en pleurs, elle se mit à lui arroser les pieds de ses larmes et elle les essuyait avec ses cheveux, les couvrait de baisers, les oignait de parfums. » Vous laissez entendre qu'il y a quelque chose presque de sensuel dans cette rencontre.
Oui, absolument, parce que voilà, ses cheveux déployés avec lesquels elle soigne les pieds, le soin des pieds, finalement, il y a presque un euphémisme qui est un peu éventuellement érotique, en tout cas nuptial derrière. On peut penser aussi à Jean-Baptiste qui disait « je ne suis pas digne de défaire les courroies de ses sandales » et en même temps qui désigne Jésus comme l'époux qui vient, l'époux de l'Église, hein, voilà. Donc il va y avoir une relation sponsale, nuptiale, hein, maritale qui va s'installer entre Jésus et son peuple, et cette femme va venir d'une certaine manière signifier cela. Alors, elle était pécheresse. Est-ce que c'est de l'ordre de l'adultère, de l'ordre sexuel ? Et en même temps, du coup, ici, eh bien, elle utilise un peu ces éléments-là pour prendre soin des pieds de Jésus. Donc, il y a quelque chose qui se met en place, qui est à la fois, est-ce que c'est parfaitement pur, est-ce que c'est plus problématique d'un point de vue sexuel, c'est la question que le pharisien va être amené à se poser.
On va faire une première pause et puis on va vous retrouver pour continuer à vous suivre par la main dans ces lectures et commentaires de l'Évangile selon Saint Luc pour cette conférence donc donnée dans le cadre donc des conférences bibliques de la faculté de théologie de l'Institut catholique de Toulouse chez Simon le Pharisien, la femme pardonnée et le prophète.
Présence. Vivante Église, Emmanuel Pella.
Les femmes dans la Bible, c'est le thème de l'émission Vivante Église de ce matin. Nous sommes ce matin avec Gaël Rocoul, qui est prêtre du diocèse d'Albi et intervenant donc dans le cadre d'une série de conférences bibliques organisées par la faculté de théologie de l'Institut catholique de Toulouse. Ce matin, on se penche sur l'Évangile selon Saint Luc et on essaye de suivre notre maître S Écriture Sainte qui nous aide, qui nous apprend, on va dire, à creuser un passage des Écritures et à découvrir la place que les femmes ont dans les Écritures. Alors ce passage de l'Évangile, Gaël Rocoul, c'est donc l'Évangile selon Saint Luc, par hasard pour ceux qui nous rejoindraient, du chapitre du verset pendant 36 au verset 50. C'est l'histoire donc d'un repas. Repas perturbé, comme on le disait, par l'arrivée d'une femme qui couvre de baisers les pieds de Jésus et qui les oint de parfum. Si on continue à cette vue, le pharisien qui l'avait convié se dit en lui-même « Si cet homme était prophète, il saurait qui est cette femme qui le touche et qu'elle est une pécheresse. » Mais prenant la parole, Jésus lui dit, il suit une conversation que je vous laisserai éventuellement rapporter. Ce sur quoi vous voulez attirer notre attention, on peut peut-être le faire, on va dire, en teasing de cette deuxième partie, c'est que dans cette rencontre, en fait, Jésus va prendre la main d'une manière inattendue, en profitant quelque part de l'arrivée de cette femme. Est-ce bien cela?
Oui, Jésus, jusqu'à présent, était muet. La seule chose qu'on a eue du repas jusqu'à présent, c'est l'installation du récit, des protagonistes, et puis l'irruption de cette femme qui agit abondamment par ses gestes. Et là, les premiers mots qui résonnent sont dans la bouche de Jésus, qui nous donne le nom de Simon, voilà, du pharisien. Jusqu'à présent, c'était un pharisien, anonyme. Et voici que Jésus nous révèle son nom. Mais il est important ce nom. Parce que Simon, en hébreu, en araméen, c'est la racine hébraïque qui veut dire « celui qui écoute ». Hein, on connaît le chemin Israël, hein, l'injonction biblique pour les Juifs, chemin, écoute Israël, chemin. Donc Simon, celui qui écoute. Donc Jésus est l'invité au repas et voici qu'il prend les commandes. Pourquoi ? Parce qu'il a perçu dans l'esprit du pharisien, donc, que l'on connaît maintenant, qui s'appelle Simon, ce jugement sur la femme et sur Jésus qu'il pose. Il pose un double jugement sur la femme. Il l'enferme dans le fait qu'il sait qu'elle est pécheresse. Et il traduit du coup les gestes de la femme comme étant la suite finalement d'une forme de débauche probablement. Et puis, il se posait la question, comme on l'a vu dans toute cette partie de l'évangile, il y a une question qui se pose autour de l'identité prophétique de Jésus. Jusqu'à présent, juste avant, il a guéri le fils d'une veuve.
Alors voilà,
tout le monde s'est exclamé.
Rappelez justement les passages précédents qui, on va dire, aux yeux du grand public, font que Jésus n'est aujourd'hui qu'un prophète.
C'est ça. Il n'est qu'un prophète et en même temps, il est un prophète et un grand prophète. Justement, hein, précédemment, donc, il a guéri le fils d'une veuve. Il l'a ramené à la vie, hein, il l'a ranimé. Et le peuple s'est exclamé. Dieu a visité son peuple et un grand prophète s'est levé parmi nous. Voilà, Jésus est ce grand prophète, il semble être ce grand prophète, commence à être acclamé comme ce grand prophète qui est venu pour le peuple. Eh bien, donc, Simon a cette idée derrière la tête, mais il se dit, mais c'est pas possible. Voilà, comment peut-il se prétendre être prophète alors qu'il y a cette femme-là qui est en train de prodiguer ses gestes sur lui? S'il était prophète, il saurait que c'est une pécheresse, il ne se laisserait pas toucher.
Alors si on continue, mais prenant la parole, donc Jésus lui dit « Simon, j'ai quelque chose à te dire. Parle, maître, répond-il. Un créancier avait deux débiteurs, l'un avait 500 deniers, l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi rembourser, il fit grâce à tous deux. Lequel des deux l'en aimerait le plus ?» Alors vous nous rappelez que c'est une parabole, c'est un procédé qui revient souvent dans l'évangile. C'est pour moi l'occasion de vous demander, certainement que nombre d'auditeurs se sont souvent posé la question, d'où viennent ces paraboles, cette habitude que Jésus a de toujours raconter des histoires d'une certaine manière?
Alors c'est un procédé assez courant hein, dans l'Antiquité. On trouve ça même dans l'Antiquité grecque, etc. Enfin voilà, le fait de raconter, c'est ce que l'on retrouve aussi par exemple dans les fables, hein, le fait de raconter une histoire en mettant en scène d'autres personnages, mais dans lesquels l'interlocuteur va pouvoir se trouver. Autrement dit, pour ne pas affronter directement Simon et ne pas le blesser d'une certaine manière au risque de rompre la communication, de rompre le dialogue, Jésus va prendre un moyen détourné finalement. Hein. La parabole va servir finalement à laisser le destinataire libre de parcourir le chemin qui sépare sa situation personnelle de celle qui est décrite dans l'histoire, de pouvoir s'identifier à l'un ou l'autre des personnages de l'histoire et intégrer le message finalement que Jésus veut lui dire et le chemin qu'il l'invite à parcourir. Si. Donc ici, voilà, il y a une parabole avec donc un créancier, deux débiteurs, l'un qui doit une plus forte somme d'argent à l'autre et ce créancier remet à tous les deux.
Lequel
et donc, si,
voilà. Donc le passage, donc, lequel des deux l'en aimera le plus? Simon répondit, celui-là, je pense, donc en l'occurrence le deuxième, auquel il a été fait grâce de plus, il lui dit, tu as bien jugé. Ce que vous nous aidez à décrypter, là, en continuant toujours de nous aider à voir la profondeur de ce texte, et puis peut-être en nous donnant des clés par la même occasion pour d'autres méditations, l'occasion de ces conférences bibliques hein, qui ont aussi cette intention, je pense, c'est que vous laissez entendre que c'est un passage qui absolutise quelque part le régime de la grâce, laissant entendre que tout vient de là. Qu'est-ce que vous voulez dire par là?
Alors, Jésus, de manière extrêmement fine, va faire une double subversion dans cette parabole. On est, a priori, dans un contexte juridique, dans un contexte voilà, financier, un créancier a deux débiteurs, et donc l'un doit 500 deniers, l'autre 50, mais on ne nous dit pas qu'il remet à tous les deux, mais qu'il fait grâce. Et ce n'est pas la même chose. Donc, finalement, au terme de juridique, hein, finalement, de la remise, comme on peut parler de remise de peine, par exemple, la remise de dette, eh bien, il va parler de grâce. Il va parler de la grâce.
Mais où sont les deux subversions? Quand vous dites deux subversions, quelles sont-elles?
Alors, je vais venir à la deuxième. Voilà, je vais venir à la deuxième. Et la deuxième subversion, c'est dans la réponse des anciens débiteurs. Normalement, eh bien, ils devraient avoir de la reconnaissance pour leur maître qui... Non. Et là, on n'est pas dans le régime de la reconnaissance, mais dans le régime de l'amour. Donc, on n'est plus du tout, en fait, dans le domaine juridique. Vraiment, Jésus nous transporte beaucoup plus loin et fait comprendre finalement que derrière cette parabole, eh bien, il y a quelque chose de plus qui est en jeu, et ben, la grâce, l'amour, eh bien, ça fait écho, et on est là dans le domaine, j'allais dire, spirituel, hein, avec finalement ce créancier, ça va être Dieu, et les deux débiteurs, eh bien, Simon va comprendre qu'il est l'un des deux, et que sans doute le deuxième, c'est la pécheresse qu'il a en face de lui, cette femme.
Mais Gaël Rocoul, pardon, je vais vous reposer la question autrement pour que vous reveniez dessus. Peut-être est-ce parce qu'on est trop habitué à entendre, en tout cas pour ceux qui sont chrétiens et pratiquants, qui vont régulièrement à la messe ou qui lisent les évangiles, on ne comprend pas forcément de prime abord ce qu'il y a de si subversif là-dedans. Voilà, ça n'est jamais quelqu'un que quelqu'un qui remet une dette. Et cette dette, on va dire, est plus, ce geste est plus grand quand la dette est plus grande, tout simplement. Est-ce que vous pouvez repréciser ces deux subversions?
En fait, la grâce, le terme de grâce, est un terme proprement spirituel. Jésus a amené la parabole dans le domaine juridique. Donc, voilà, la question de la remise de dette est un terme juridique. Alors, c'est vrai que c'est un terme que l'on va retrouver ensuite, parce que c'est un terme qui va signifier le pardon. On va l'avoir, par exemple, dans la prière du Notre Père. « Remets-nous nos dettes, comme nous remettons aussi à nos débiteurs. » Et d'ailleurs, on retrouve cette idée de la dette. Mais donc, du point de vue... À partir de cet élément juridique, Jésus va passer au domaine complètement divin, finalement. Divin, avec la grâce. La grâce, c'est un don que Dieu fait pour pouvoir accueillir l'amour, accueillir, vivre, poser concrètement des gestes d'amour, accueillir le pardon, etc. Il y a quelque chose radicalement divin, voilà, à la racine.
Donc c'est du divin dans une histoire de dette, ça c'est pour la première subversion, et la deuxième?
Et la deuxième, c'est la réponse des débiteurs, qui encore une fois, d'un point de vue juridique, on parle de reconnaissance. Enfin, je ne sais pas, mais un homme qui est en procès et dont le juge prononce son acquittement, ou bien, je ne sais pas moi, le président de la République qui gracie tel ou tel condamné, je ne pense pas que la personne concernée éprouve de l'amour à cette personne qui lui a remis la dette, mais de la reconnaissance. Donc, on est encore une fois en dessous. Le mot que Jésus utilise, hein, l'agapé, c'est un mot que Jésus va utiliser pour parler notamment de l'amour de Dieu, en fait. Voilà, c'est ça qu'il y a derrière. C'est-à-dire qu'encore une fois, même dans la réponse des débiteurs, eh bien, Jésus va dépasser, en fait, le cadre qu'il a installé, le cadre juridique de l'histoire, de la parabole, pour eh bien, amenés sur le terrain spirituel, sur le terrain de Dieu. Voilà.
Alors continuons dans cette scène, on va dire, triangulaire avec trois personnages principaux que sont donc Simon, Jésus et cette femme dont on ne connaît pas le nom. La femme réapparaît puisqu'il suit verset 44 et se tournant vers la femme, « Tu vois cette femme, dit-il à Simon, je suis entré dans ta maison et tu ne m'as pas versé d'eau sur les pieds. Elle au contraire m'a arrosé les pieds de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as pas donné de baiser. Elle au contraire, depuis que je suis entré, n'a cessé de me couvrir les pieds de baisers. » Ce que vous laissez entendre, c'est que... alors ça peut paraître étonnant parce que Jésus déjà ne s'adresse pas à sa femme. En fait, il parle beaucoup... Sans parler à cette femme, mais ça on y reviendra peut-être, c'est qu'il y a là dans la remarque de Jésus en fait quelque chose qui a trait à l'hospitalité qui lui était due normalement.
Voilà, depuis, on connaît peut-être l'histoire d'Abraham, hein, dans le livre de la Genèse, qui reçoit la visite de trois personnages mystérieux. Bon, alors, la tradition chrétienne ultérieure en lira une image de la Trinité. Et il reçoit cette visite de trois mystérieux personnages et il les fait s'arrêter, s'asseoir et il va leur proposer de l'eau pour se laver, leur offrir le repas, etc. etc. Il y a, dans la tradition judéo-chrétienne, enfin surtout juive au départ, une tradition de l'hospitalité avec des gestes codifiés. Enfin voilà. Jésus souligne à Simon que il n'a pas pratiqué ces gestes d'accueil d'hospitalité.
Quels auraient dû être ces gestes en fait, quoi, le lavement des mains, comme parfois ça se vit dans certaines abbayes encore aujourd'hui.
Voilà, donc de l'eau pour les mains ou pour les pieds, même, hein, puisque Jésus, en fait, souligne à Simon le décalage entre ce qu'il aurait dû recevoir de la part de Simon et ce qu'a fait la femme. Autrement dit, concrètement, il parle d'eau pour ses pieds, il parle du baiser fraternel, d'accueil, et il parle même, je pense que c'est pour les personnages les plus importants, de l'onction d'huile sur la tête. Et Jésus va souligner que ceci, donc ces trois éléments, Simon ne l'a pas fait, mais que au contraire, la femme, elle, non seulement l'a fait, mais l'a fait beaucoup plus, de manière surabondante. Ce n'est pas de l'eau pour les pieds, mais c'est carrément ses larmes. Et on peut imaginer les flots de larmes continuelles qu'elle déverse. Il n'y a pas de Simon n'a pas donné le baiser d'accueil. La femme, elle couvre les pieds de Jésus de baisers. Il n'a pas oint la tête d'huile. Elle a oint les pieds de parfum. Donc c'est plus que de l'huile, c'est même du parfum, c'est encore plus précieux, encore plus même odorant. Donc Jésus va souligner finalement, comme dans la parabole il y avait deux personnages un peu en vis-à-vis, et bien là il va aussi souligner la différence d'attitude de l'un et de l'autre pour mettre en lumière, et c'est là où il va y arriver, pour mettre en lumière et bien l'enseignement de la parabole.
Alors cette femme, avant qu'on fasse une deuxième pause, on peut avoir l'impression, Gaëlle Recoul, qu'elle est à la fois centrale et en même temps que ça reste une discussion d'hommes. Quand une femme vient à vos pieds, déverser ses larmes, les oint de parfum, et que vous continuez à parler à quelqu'un d'autre, ça peut donner l'impression d'un certain mépris. Qu'est-ce que vous pourriez dire au regard de mon introduction qui nous rassure ?
Ce qui est absolument extraordinaire, c'est que, en fait, on est trop habitué, sans doute, on est notre civilisation, d'une certaine manière, notre époque, notre société, est très versée dans la communion, dans la communication verbale. Et donc, parce que quelqu'un ne parle pas à quelqu'un d'autre, on a l'impression qu'il n'y a pas de relation. Ici, en fait, la relation et la communication que Jésus entretient avec cette femme, elle n'est pas verbale, elle est physique. Il ne faut pas oublier que dans cette troisième partie du texte, Jésus se tourne vers la femme, tout en s'adressant à Simon, mais il se tourne vers la femme. Et donc, il montre de cette manière-là la profonde communion qu'il y a entre lui et cette femme, et précisément parce qu'il se laisse toucher par elle. Donc j'allais dire, la relation est même encore plus grande avec elle qu'avec Simon, qui lui reste encore à distance, ne serait-ce que par son jugement et par sa réflexion.
Chez Simon le pharisien, la femme pardonnée, le prophète, c'est le titre de votre conférence, conférence biblique dans le cadre d'une série de conférences sur le thème « Les femmes et la Bible » cette année 2020-2021, organisée par la faculté de théologie de l'Institut catholique de Toulouse. On fait une courte pause et on vous retrouve pour finir cette promenade biblique avec vous.
Santo, santo,
santo,
Señor Dios del universo, santo, 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 Señor Dios del universo. La tierra de tu gloria, llenos están los cielos y la tierra de tu gloria. Hosanna en las alturas,
bendito el que viene en el nombre del Señor.
Hosanna en las
présence à Castelsarrasin 93.3. Vivante Église, Emmanuel Pella.
Les femmes dans la Bible, c'est pour rappel le thème de l'émission Vivante Église de ce matin, deuxième émission d'une série annuelle, et ce matin nous sommes avec Gaël Rocoul, qui est prêtre du diocèse d'Albi et l'un des conférenciers intervenant dans le cadre de ce cycle de conférences organisé par la faculté de théologie de Toulouse. On parcourt avec vous donc le chapitre 7 de l'évangile selon Saint-Luc, du verset 36 au verset 50. L'histoire d'une femme, j'ai envie de dire, et de Jésus, l'histoire d'une rencontre, cette femme qui se jette aux pieds de Jésus, pour ceux qui par hasard nous rejoindraient, et qui donc l'embrasse au milieu d'un repas où elle n'était pas normalement invitée. Alors, vous laissez entendre que, en fait, c'est quelque part cette femme, dans ce passage de l'évangile, et dans ce début d'évangile où vous nous dites que, de l'évangile selon Saint-Luc, où la grande question c'est qui est Jésus, c'est cette femme qui vient aider à révéler en fait l'identité de Jésus. Qu'est-ce que vous entendez par là?
En fait, donc jusqu'à présent on se pose la question, mais est-ce que cet homme est véritablement prophète? On a entendu des acclamations disant ben voilà, un grand prophète a visité son peuple dans la personne de Jésus. Simon se pose la question, ce pharisien qui a invité Jésus, mais s'il était prophète vraiment, il saurait qui est cette femme, une pécheresse. Et en réalité, eh bien Jésus va montrer et va aider Simon à cheminer, et le lecteur aussi à travers lui, à montrer que cette femme, justement, est là pour révéler l'identité de Jésus, et plus que prophétique. Pourquoi? Parce que cette femme donc pose des gestes absolument extraordinaires. On a évoqué à l'instant que Simon n'a pas pratiqué les gestes d'hospitalité un peu en usage, un peu conventionnel. La femme, elle, non seulement les a fait, mais bien au-delà ce qui était attendu. Et en fait, Jésus va montrer, comment cette femme met en œuvre la parabole que j'ai dite tout à l'heure. Hein, deux créanciers, un créancier qui a deux débiteurs, qui doivent deux sommes d'argent différents, il remet à tous deux, il fait grâce à tous deux, et celui qui devait davantage l'aime davantage. Alors eh bien, c'est ce que va dire Jésus. Tu vois, Simon, eh bien, cette femme, parce que elle a beaucoup, parce qu'il lui a été beaucoup remis, eh bien, elle aime beaucoup.
Alors on peut lire le passage, oui. C'est donc le verset 47. Ouais. À cause de cela, je te le dis, ses péchés, ses nombreux péchés, lui sont remis parce qu'elle a montré beaucoup d'amour. Mais celui à qui on remet peu montre peu d'amour. Donc vous dites que on pourrait presque appeler donc ce passage de l'Évangile. Alors je retrouve plus votre expression. La femme et le prophète, c'est ça?
Oui, parce que. Alors, même à cause de cela, on pourrait dire grâce à quoi ? Grâce à quoi, je te le dis, ses péchés, ses nombreux péchés lui sont remis parce qu'elle a beaucoup aimé. En fait, Jésus nous dit, voilà, elle a su accueillir, à travers ma personne, elle a su accueillir la grâce qui lui vient de Dieu. La grâce qui vient de Dieu. Et donc, par là, accueillir le pardon que Dieu lui donne à travers moi et manifester beaucoup d'amour pour moi, pour Dieu à travers moi. Et donc la femme, d'une certaine manière, va révéler que non seulement Jésus est prophète, mais qu'il est plus qu'un prophète. Donc, en ce sens-là, elle fait elle-même œuvre prophétique, d'une certaine manière. Elle est, elle aussi, prophète, parce que, eh bien, elle montre par ses gestes, par son attitude, que Jésus est même plus qu'un prophète. Et c'est ce qui va lui permettre de s'entendre dire cette phrase, et il faut attendre le verset 48 hein, du texte, donc l'avant-dernier verset du texte, pour entendre Jésus s'adresser directement à la femme en lui disant « Tes péchés sont remis ».
Alors vous qui,
l'ouvrir.
Oui. Vous qui avez le souci du détail, vous dites que le fait que ça soit une voix passive du verbe « remettre oui. », ça signifie quelque chose, ça laisse entendre qu'en fait, quelque part, lui aussi, Jésus désigne quelqu'un d'autre qui est absent de cette scène, c'est-à-dire plus grand que lui, ou
en lui même,
ou en lui.
Du coup, hein, ou lui-même finalement, hein, effectivement. Tes péchés sont remis, c'est un verbe passif, il n'y a pas d'agent exprimé, eh bien on comprend que c'est Dieu. Et c'est bien la question qui a parcouru déjà dans un épisode aussi précédent avec la guérison d'un paralytique hein, porté par quatre porteurs, où on a exactement en fait les mêmes termes, je ne vais pas le détailler ici, au chapitre 5 de Saint-Luc, vous irez voir. Mais on a aussi cette question-là, tes péchés sont remis, et on entend dans la foule, mais qui peut pardonner les péchés sinon Dieu seul ? Eh bien oui, justement. Jésus vient révéler que s'il peut se permettre de poser cette parole de vérité, hein, c'est plus qu'un souhait, c'est plus qu'un vœu, c'est une parole de vérité. Il n'y a que Dieu qui peut poser cette parole de vérité. Et donc, finalement, Jésus, du coup, en même temps, révèle la signification des gestes de la femme, de ses larmes, qui sont à la fois les larmes un peu du repentir, du regret, de la honte, mais aussi de la reconnaissance, de l'amour. Hein, quelqu'un qui a été infiniment pardonné, eh bien finalement, il y a des larmes de bouleversement, de joie finalement aussi qui jaillissent. Eh bien, c'est tout ça aussi que Jésus vient révéler dans l'attitude de la femme.
Alors, cette scène triangulaire, donc la femme finit, on va dire, presque en haut, hein, et bref, les choses sont inversées par rapport au début. On a entendu aussi le parcours, quelque part, que le lecteur fait donc avec Simon, avec ce pharisien. Jésus est un maître, puis devient un prophète, et après se découvre comme plus grand qu'un prophète. Qu'est-ce qu'on peut dire en réponse un peu à la question peut-être sous-jacente de ce cycle de conférences, les femmes dans la Bible, qui probablement veut mettre en valeur la place des femmes dans les Écritures. Qu'est-ce que ce passage vient nous dire de la place qu'ont les femmes dans les Écritures, Gaël Recoul?
Je crois que Luc, d'une part, en particulier, hein, puisque c'est le sujet d'aujourd'hui, mais l'évangéliste fait œuvre en même temps de réalisme. C'est-à-dire que à travers la figure de cette femme singulière, au fond, c'est toute l'humanité qui qui peut se retrouver en elle, blessée par le péché, par une attitude, par des difficultés relationnelles, et qui est capable de trouver en Jésus celui qui vient les sauver, les pardonner, leur révéler tout cela. Et au fond, on peut trouver, d'ailleurs, dans toutes les femmes de l'évangile de Luc, et Dieu sait qu'elles sont nombreuses, toutes les situations, toutes les réalités humaines que Jésus vient assumer, qu'il vient restaurer, qu'il vient honorer, qu'il vient sauver. Et au fond, je crois que, et ce que je disais tout à l'heure,
mais Gaël Rocoul,
dans cette relation singulière,
oui, Gaël Rocoul, pardon, oui, mais ça concerne, on va dire, tout à chacun, pas forcément les femmes en particulier.
Tout à fait. Et dans cet épisode en particulier, Jésus montre bien que les femmes qui, a priori, étaient exclues du cercle relationnel des pharisiens, juifs, bien-pensants, etc., ont toute leur place et ont à révéler quelque chose de particulier sur une sensibilité peut-être particulière qui va leur permettre de révéler quelque chose justement de cette messianité de Jésus, du fait qu'il sauve, etc. Jésus vient honorer tout à fait cette relation avec les femmes d'une manière particulière.
Alors allez-y, finissez. Oui.
Non, mais c'est ça. Vous évoquiez au début la question du pape François.
Alors justement, je vais le citer. Voilà. Donc le pape François c'était le 11 janvier 2021, a rendu public donc un motu proprio qui s'appelle Spiritus Domini, qui permet l'ouverture pour les femmes des ministères du lectorat et de l'acolyta, c'est-à-dire en gros une présence à l'autel et la possibilité de lire les écritures lors de la messe dominicale, si j'ai bien compris. Et puis on peut trouver l'une ou l'autre expression ou commentaire, en l'occurrence du pape François: il est urgent que les ministères soient promus et conférés aux hommes et aux femmes, ou alors il est aussi important de réfléchir à des fonctions qui impliquent de manière durable et stable la reconnaissance publique de la place des femmes dans l'Église. Vu de loin, ça peut paraître justement, on peut se dire, mais mon Dieu, il a fallu attendre autant de temps pour laisser une telle place aux femmes. Comment les convaincre, peut-être les auditeurs encore inquiets ou ceux qui ont des connaissances qui leur posent de telles questions, de la place des femmes dans l'Église catholique comme dans les Écritures?
Alors, d'une part, il faut rappeler que le texte du pape est un texte universel. Donc, c'est une donnée importante. Enfin, nous, on voit le monde à partir de ce que nous sommes, mais le monde est quand même bien plus grand que ce que nous vivons en France. Or, c'est une réalité que nous vivons déjà en France. Dans beaucoup de paroisses, ceux qui font les lectures, ceux qui font le service à l'autel, qui donnent la communion, qui apportent la communion aux malades, ne reçoivent pas le ministère institué laïque, hein, puisque c'est de ça dont il s'agit. C'est l'inscription finalement dans le droit de l'Église d'une réalité qu'en France nous, quand même globalement, nous vivons largement. Vous avez employé au début de l'émission, et vous l'avez rappelé là, le mot de service, et je crois que c'est le mot capital. Il s'agit d'un service de la parole, d'un service de l'autel, de l'Eucharistie, et un service qui vient être vécu en complémentarité avec le service que doivent exercer les ministres ordonnés. En fait, c'est une manière de mettre à l'honneur hommes et femmes, j'allais dire confondus, en tout cas hommes et femmes, le ministère baptismal. Voilà, c'est ça, le ministère baptismal, le sacerdoce baptismal, le fait que les laïcs célèbrent avec les ministres ordonnés, dans l'Eucharistie, dans la liturgie de l'Église, dans le service des plus pauvres, des malades, etc. Mais c'est comme avec le Concile Vatican II. Enfin, on est une soixantaine d'années après le Concile Vatican II. On n'a pas encore tout compris. Et il faudra du temps. On est dans une société où on a envie que tout aille très vite, que tout aille tout de suite, que tout se fasse, etc. Eh bien, il nous faut aussi peut-être accepter que les choses prennent un peu plus de temps que ce que nous voudrions. On a des choses choses à intégrer, à comprendre, à mettre en place. Et je crois qu'il faut avoir confiance dans l'Esprit Saint. Et le pape nous aide un peu, nous bouscule, nous fait avancer pour arriver à mettre ces choses en place et bien comprendre cette complémentarité si nécessaire entre les ministres ordonnés et ministres ordonnés. Nous sommes au service des fidèles laïcs, des baptisés, qui ont à exercer leur sacerdoce baptismal.
Et ben on pourra finir par ces mots du pape François, qui donc dans un courrier adressé au cardinal Luis Ladaria Ferrer, qui est préfet de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi, dit entre autres « Dans l'horizon du renouveau tracé par le Concile Vatican II, il y a aujourd'hui un sentiment d'urgence croissant pour redécouvrir la co-responsabilité de tous les baptisés dans l'Église et en particulier la mission des laïcs. » Merci beaucoup Gaël Recoul d'être venu au micro de Vicomte Église ce matin. On peut donner le thème de la prochaine conférence de cette série de conférences bibliques. Ce sera le 2 mars, donc à l'Institut catholique, à Plaisance du Touche, pardon, cette fois. Bernadette Escaffre, Judith, remake au féminin de David contre Goliath. Judith, remake au féminin de David contre Goliath, le 2 mars prochain, à Plaisance du Touche. Merci beaucoup.
Merci Emmanuel.
Cette émission est réalisée par Christophe Aubry. Vous pouvez la réécouter ce soir à 21h ou la retrouver en podcast sur notre site internet ou notre page Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain.
Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00 05 62 48 63 00 ou par mail à contact@radioprésence.com.